Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Vous le savez, pendant une heure, il est tous les jours à mes côtés dans ce studio, c'est bien sûr le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on va se mettre un peu à l'heure des fêtes de fin d'année et du réveillon de Noël qui approche à grands pas et on va surtout s'intéresser à ce qu'on va mettre dans notre assiette. Ceux qui font un peu attention à leur ligne peuvent redouter cette période et parfois les repas gargantuesques qui s'enchaînent, en tout cas des repas souvent plus riches et plus gras que d'habitude. Eh bien, pour prendre du plaisir tout en gardant la ligne, notre invité, ce sera le docteur Patrick Serrault. Il est médecin nutritionniste à Paris. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien. On va s'intéresser aux antibiotiques. Semble-t-il, grâce aux gestes barrières, on est moins malade et donc leur consommation a baissé en France. Une bonne nouvelle, on fera le point avec le docteur Jimmy Mohamed. Et puis vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à une jeune femme chez qui la sexualité est bien perturbée à cette période de l'année.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer par cette question qui nous a été posée par Raymond.
Bonjour, ma question est de savoir, un homme qui souffre d'un cancer de la prostate, peut-il avoir des rapports sexuels normalement? Si oui, sans traitement ou avec traitement? Merci.
Alors Jimmy, on comprend l'inquiétude de Raymond qui ne dit pas vraiment si ça le concerne lui, mais bon, en tout cas, il nous pose cette question précise. Est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles normales quand on est atteint par un cancer de la prostate?
Oui, évidemment, quel que soit le type de cancer, ça ne contre-indique absolument pas les relations
sexuelles.
Encore
faut-il avoir envie, bien sûr.
Exactement, encore faut-il avoir l'envie, l'énergie, que la complicité soit au rendez-vous, parce qu'on a tendance effectivement à déshumaniser la personne qui a un cancer et parfois on a l'impression qu'elle n'a plus d'envie. Or, effectivement, si on a envie d'avoir des rapports sexuels, pas de problème. Et encore une fois, si on n'en a pas envie, ce n'est pas non plus un problème. Une fois que la personne a combattu le cancer, elle peut peut-être retrouver une vie normale. Donc il ne faut pas mettre de pression, car tous les scénarios sont possibles.
Et il demande donc si le fait d'être sous traitement change quelque chose, ou je ne sais pas, fait courir... Je ne comprends pas bien d'ailleurs cet aspect-là de la question. Est-ce que c'est le fait de devoir prendre un traitement pour avoir une érection, ou d'être sous traitement du cancer?
Exactement, je me pose aussi la question. Alors c'est vrai qu'on peut donner effectivement des traitements... l'équivalent du Viagra, du Cialis, pour justement compenser le fait qu'on n'a pas d'érection. Et ça, c'est la conséquence des traitements qu'on a pu avoir pendant le cancer, notamment le traitement de la prostatectomie, le fait d'enlever la prostate.
Chirurgie, ouais.
On sait que ça a un impact sur la fonction érectile, mais si jamais vous avez eu de la radiothérapie, de la chimiothérapie, il peut y avoir des séquelles et parfois le désir ou la fonction érectile peut moins marcher. Mais oui, c'est possible, mais encore faut-il en parler avec son médecin.
D'accord, parce que justement, Jimmy, vous le disiez, il peut vraiment y avoir des conséquences à la fois urinaires et sexuelles, surtout quand il y a eu de la chirurgie.
Exactement,
c'est ça,
le plus
c'est
important,
fréquent,
c'est quand
hein,
on a eu la prostatectomie totale, on vous enlève totalement la prostate, il peut y avoir l'atteinte d'un nerf, le nerf caverneux, qui est responsable de l'érection. Parfois, des petites artères sont touchées, raison pour laquelle il peut y avoir une érection qui ne marche plus, mais aussi, parfois, il y a aussi un désintérêt pour la sexualité, notamment après la chirurgie. On peut aussi avoir un orgasme qui ne marche pas, on peut ne pas éjaculer correctement ou même avoir des douleurs. Donc, il peut y avoir des troubles liés à la sexualité de façon générale. Et ça dépend de plein de paramètres. L'âge, le type de tumeur que vous avez, le type d'intervention, si vous avez de la radiothérapie en
mais
plus.
Mais ce sont des questions qu'on peut aborder avec son urologue,
exactement,
avec son cancérologue. Il ne faut pas hésiter, il
n'y
a pas de tabou,
exactement,
et c'est tout à fait normal. Jimmy, merci beaucoup. On va passer à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, c'est Marianne qui nous l'a posée sur notre répondeur. La voilà.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai mon fils qui grince des dents la nuit. J'ai l'impression qu'il se les abîme en faisant ça. J'aimerais savoir d'où ça vient et qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, parce que ça m'angoisse un petit peu. Donc je vous remercie, passez une bonne après-midi. Au revoir.
Alors Jimmy, un enfant qui grince des dents la nuit, ça peut arriver aux adultes, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle le bruxisme.
Exactement,
hein, c'est ça,
grincer du dent, ça s'appelle le bruxisme, c'est plutôt la nuit, même si parfois chez les gens qui sont très stressés, on retrouve ça aussi en journée.
D'accord, et c'est fréquent chez les enfants?
Alors c'est aussi fréquent d'ailleurs chez les adultes, c'est 8% des adultes.
Quand
chez
même.
Les enfants, ça dépend de leur âge, c'est 10% des enfants qui ont 2 ans et demi. Et plus ils grandissent, plus ça augmente. À 6 ans, c'est 35%
quand
des
même,
enfants
ouais,
qui grincent des dents, et puis ça diminue petit à petit à l'adolescence. À l'âge de 13 ans, c'est seulement 10% qui vont avoir un bruxisme.
Quelles sont les causes? Parce que vous parliez du stress, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça.
C'est la cause majoritaire,
ouais,
la principale,
même.
Le fait d'être stressé. Plus vous êtes stressé, plus vous grincez des dents. Et dans ces cas-là, on s'occupe plutôt du problème psychologique. Ça ne veut pas dire que vous êtes dingue, que vous avez un problème psychiatrique. Hein. Ce n'est pas péjoratif quand on dit ça.
Mieux gérer le stress.
Exactement, ouais. Pour traiter ce bruxisme.
Et alors, quelles sont les conséquences? Parce que bon, bien sûr, ça peut abîmer les dents, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres conséquences de ce bruxisme?
Alors, mais c'est une conséquence majeure, parce que lorsque vous grincez des dents, vous allez frotter et abîmer l'émail, la partie qui protège la dent. Et une fois qu'elle est abîmée, elle ne repousse jamais. Donc à partir du moment où vos dents sont abîmées, limées par le fait de se les frotter, eh bien le dentiste ne peut plus rien faire pour vous. Et donc il faut éviter d'en arriver là. Et par conséquent, on travaille le stress, donc des techniques de relaxation. On évite de prendre des médicaments pour déstresser les
la
enfants.
La méditation
ça
avec
pas.
Les enfants, ça marche très très bien. Moi, je conseille l'application Petit Bambou.
Exactement. Bah voilà, c'est un conseil du quotidien qui marche très bien. Et puis les dentistes ont l'habitude aussi de presser des gouttières, un peu comme les boxeurs. On vous met un morceau de plastique la nuit qui permet d'éviter de frotter les dents. Et donc ça limite les contraintes et ça permet de traiter le bruxisme. Même si, encore une fois, j'insiste, la prise en charge elle est psychologique, sans pour autant que ce soit péjoratif. Les parents ont peur d'amener voir les enfants, voir un pédopsychiatre, voir un psychologue. Il n'y a aucune honte et aucun problème à le faire.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité dans ce studio avec nous aujourd'hui pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Patrick Serroque, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes médecin nutritionniste à Paris et avec vous on va évidemment aujourd'hui tenter de concilier repas de fête au pluriel bien souvent et limitation des kilos sur la balance. Mais avant de parler festivités, on va peut-être reparler un peu de contexte. On est en hiver, ça y est. Hein. Et pour beaucoup, on a envie à cette période de plats réconfortants. On sait que le nombre de raclettes achetées cette année a explosé. Est-ce que nos besoins physiologiques, vraiment, sont plus importants quand il fait froid?
Alors, les besoins physiologiques, quand il fait froid, sont effectivement un peu plus importants, à condition qu'on ait vraiment froid. Alors, le problème, il est là, c'est que avant, nos ancêtres avaient vraiment froid, aussi bien à l'intérieur des maisons qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'abord, nous sommes très bien habillés, nous avons des très bons isolants. Et à la maison, nous chauffons beaucoup nos appartements.
Au travail, c'est pareil. Dans le métro, souvent, c'est pareil.
Donc finalement, notre dépense
énergétique... Jimmy, il a un peu froid sur son scooter, je crois, le matin, mais c'est tout.
Voilà, c'est peut-être le moment. Et encore, il est bien isolé. Donc c'est... malheureusement, nous n'avons plus d'occasion, j'allais dire, de brûler plus...
Donc, pas de besoin supplémentaire.
Et il n'y a pas de besoin physiologique supérieur à la période d'été.
Bon, c'est pas la peine de manger votre pain au chocolat là, avant de monter sur le scooter tous les matins pour vous donner bonne conscience, Jimmy. C'est pas la peine.
Si je suis honnête, je n'ai pas froid, mais j'ai envie de raclette, j'ai envie de fondue. Oui. Est-ce que c'est normal en cette période de l'année d'avoir envie de trucs un peu réconfortants?
Oui, alors c'est normal. Alors pourquoi c'est normal? Tout simplement parce que nous vivons avec des cycles. Bon. Et lorsque le cycle du froid arrive, instinctivement, comme le faisaient d'ailleurs nos ancêtres, on a sûrement hérité ça dans une partie de nos gènes, eh bien nous avons besoin de plats plus roboratifs qui vont nous donner une certaine chaleur interne, même si on ne meurt pas de froid dans notre environnement.
Et donc c'est normal, c'est juste la faute de vos gènes, Jimmy.
De nos gènes en général, pas uniquement de celui de Jimmy, mais de tous nos gènes. C'est tout simplement qu'à ce moment-là, on va s'adresser à des plats qui vont être un petit peu plus gras, avec des viandes souvent un petit peu plus grasses également.
Un peu mijotées avec des sauces,
c'est tout ça. Avec des sauces, voilà. Et puis la raclette, vous avez bien, ça c'est un phénomène assez moderne, la raclette est arrivée dans notre univers.
La tartiflette, moi je dis aussi allons-y gaiement, la fondue.
Voilà. Et là effectivement, ça représente quand même une quantité de calories assez importante.
Alors docteur, même si nos besoins, en tout cas ceux de notre organisme, ne sont pas forcément plus importants, on dit aussi souvent qu'on grossit pendant la saison hivernale. Moi j'ai même des amis qui me disent, alors moi j'ai mon poids d'hiver, mon poids d'été, genre 3 kilos de plus ou 4 kilos de plus, alors on ne parle pas de choses énormes, mais quand même. C'est normal de prendre du poids? On prend combien en moyenne? Alors, en hiver,
la variation pondérale est normale. Alors, quand on prend du poids, ça ne veut pas dire qu'on grossit forcément. On peut prendre du poids parce qu'on va avoir plus d'eau. Par exemple, quand arrive l'hiver, les plats qu'on va manger sont un peu plus salés. Si vous mangez de la raclette, ça va être très salé à cause du fromage. Si vous faites un bœuf bourguignon, vous allez le saler plus que si vous mangez une salade avec des
ça, c'est quand
poulet.
C'est 3-4 kilos, voilà. Quoi. Mais si,
La différence peut se faire entre, dirons-nous, 1 et 3 kilos quand même.
D'accord. Hein.
Et surtout, ce sont des prises de poids subites. C'est-à-dire que la veille, vous aviez 3 kilos de moins, le lendemain, vous vous réveillez, vous avez 3 kilos de plus. Alors ne vous affolez pas.
Mais moi, ça fait des mois et des mois que c'est subi comme ça. C'est pas
voilà,
ça.
Mais ça n'a aucune espèce d'importance. C'est simplement que la quantité de sel absorbée est plus importante. Et donc, il suffit de réguler en diminuant un peu la quantité de sel.
On a vécu une année un peu particulière, deux confinements. Est-ce que vous avez vu sur vos patients des dégâts sur la balance avec des prises de poids importantes?
Oui, alors, c'est très variable selon les individus. Les individus qui avaient un poids normal, qui étaient bien régulés, ne prennent pas beaucoup de poids. Ceux qui avaient tendance à prendre un peu de poids, qui faisaient attention, eux, sont victimes du confinement et vont prendre effectivement plus de poids. Certains autres qui étaient déjà au régime et qui ont continué de suivre leur alimentation ont continué de perdre du poids comme ils l'avaient commencé avant le confinement. Donc on se retrouve devant des configurations qui sont très différentes. Mmh. Mais il y a une plainte. Il y a une plainte sur le poids pendant cette période de confinement qu'on retrouve un petit peu partout. C'est-à-dire que le poids n'est pas régulable comme on le faisait avant. Parce que les conditions psychologiques y ont changé, l'enfermement a donné des modifications de notre comportement et qu'il faut bien qu'on se plaigne de quelque chose. Donc on va plus se plaindre de cela parce qu'on sent que c'est vraiment notre corps qui est touché par ce phénomène.
Et Dr Sarok, ce sont donc clairement des kilos émotionnels déjà accumulés peut-être donc ces derniers mois. Et d'ailleurs, vous avez écrit un ouvrage, co-écrit un ouvrage sur le sujet qui s'appelle « Faites sauter les verrous psy qui vous empêchent de maigrir chez Marabout ». Justement, cette année, vous donneriez quoi, là, on est en fin d'année, à ceux qui ont pris ces kilos un peu émotionnels de stress liés au confinement, au virus, au télétravail, à tout ça, et qui ont eu beaucoup de dégâts cette année? On va peut-être pas s'y mettre pendant les fêtes, tout ça, on va remettre ça au clair peut-être en janvier.
Comme d'habitude, on prend les bonnes résolutions au début janvier, je crois qu'il faut les conserver.
Pas s'embêter là, pour les semaines à venir.
Certainement pas s'embêter maintenant, c'est un très mauvais moment. Et puis, il faut dire que tous ces gens qui ont pris un peu de poids vont très bien les reperdre une fois que leur vie va redevenir un petit peu comme avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'activité physique, c'est difficile de faire une activité physique vraiment soutenue, on va dire. Bon, et je vois mes patients s'en plaignent beaucoup. Donc, dès qu'on va reprendre notre cycle d'activité physique, tout va se remettre dans l'ordre et surtout, nous allons manger différemment.
Ça veut dire que les kilos qu'on a pu accumuler par le stress, par le confinement, l'inactivité, pas d'urgence pour les perdre? Est-ce qu'on se fixe une échéance? On se laisse 6 mois, 1 an? Parce qu'on a tendance à vouloir tout perdre en janvier. On se dit, allez, c'est parti. Fin de l'année, on mise tout sur janvier, février.
Oui, vous avez raison. Ce n'est pas une bonne idée de le perdre très rapidement. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a qu'une seule urgence, qui sont les gens qui ont vraiment un surpoids très important, qui sont à la limite avec l'obésité. Ouais. Là, oui, parce que ceux-là, ils vont grossir très vite. Ils ne vont pas prendre 3 ou 4 kilos, ils vont prendre 20 kilos. Donc là, il y a vraiment une urgence. Mais pour tous les autres, qui est la majorité de la population, on a le temps. Il faut se dire la chose suivante. Notre vie va se rétablir lentement dans notre activité précédente, progressivement. Donc, il faut compter, il faut nous laisser 6 mois pour qu'on puisse arriver à revenir à notre poids d'équilibre, donc avant les vacances d'été.
Très bien, bon, ça va, ça nous laisse le temps, Jimmy. On est détendu. Ça vous va, vous, les objectifs à long terme?
Très long terme.
Comme ça,
même donnons-nous 1 an, 2 ans, tout va
Jimmy,
bien, il n'y a aucune urgence.
On peut toujours attendre. Merci, Jimmy. Docteur Sarok, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité dans ce studio, c'est vous, docteur Patrick Sarok. Vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Et on va passer donc au vif du sujet, on l'a dit. Docteur Sarok, d'abord, est-ce qu'il est vraiment possible d'allier ligne et plaisir, fête et plaisir, mais en faisant quand même un petit peu attention? Si vous dites non, on arrête tout de suite l'émission, alors dites oui, s'il vous plaît, parce que sinon,
c'est une réponse unique, en fait. Voilà. C'est une fausse question.
C'est une fausse question, mais allez-y.
Oui, bien sûr que c'est tout à fait conciliable. Il faut quand même se rappeler que les fêtes, les repas de fête, vraiment, ça va être entre 2 à 4 repas au cours de cette semaine.
Puis on en a besoin, on en a envie, tout ça.
Bien sûr.
Faut dire ce qu'il
y a. Et dans une semaine, il y a 14 repas. Donc, si on fait 4 repas exceptionnels, ce n'est pas non plus le désespoir absolu.
C'est ça. Sur l'année entière, en plus.
Sur l'année entière,
ça devrait
vraiment pas grand-chose.
4 repas, Jimmy, vous avez vu, vous avez le temps de...
Oui, mais est-ce que ça peut avoir un impact sur la balance? Est-ce qu'on va quand même prendre quelques kilos durant cette période? Parce que malgré tout, ça reste la préoccupation principale.
Moi, pendant les fêtes, j'en prends toujours. À la fin de la semaine, alors, quand je me pèse, c'est une catastrophe.
Oui, il y aura une prise de poids, je l'annonce officiellement.
C'est clair, écoutez bien, vous allez grossir, c'est obligé.
Non, vous n'allez pas grossir.
Non.
Ah. Vous allez prendre du poids, ça c'est
pour
sûr.
Pour moi c'est pareil, mais...
On peut prendre entre 2 et 4 kilos au cours de cette période, qui sera avant tout une prise d'eau.
Oui, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement.
Oui,
c'est
parce
ça.
Que là, la quantité de sel va être très importante. Oui. Il faut s'imaginer qu'on ne grossit pas tous les jours. On ne peut pas, du jour au lendemain, prendre 500 grammes de graisse. Ça n'existe dans aucun système physiologique chez l'être humain. Il faut du temps pour prendre de la graisse. Donc, Par contre, pour prendre des kilos d'eau, c'est immédiatement.
Moi, j'ai mangé mes petits chocolats, voilà. Tout ça, puis regardé mon mari, il me dit, mais je prends de l'eau, là, ne t'inquiète pas, c'est que de l'eau, chérie. Ça va rassurer. Alors, c'est vraiment risqué, les repas en famille, c'est vraiment ceux où on se lâche le plus, quand même, il faut dire ce qui est. On en a tous envie, là. Moi, j'ai hâte, hein, d'être au repas du réveillon en famille. Mais pourquoi on se sent, malgré tout, parce qu'on va dire dans la vraie vie, hors fête, on sait qu'il faut faire un petit peu attention, on se régule tous. Pourquoi il y a cette espèce de lâchage en famille? Tout le monde se sent obligé quand même de manger, on en a envie et on fait comme tout le monde. Quoi.
Il y a toujours
moi, j'arrive pas à dire non.
Oui,
hein,
mais il y a toujours
façon.
Une Mélanie Gomez qui se goinfre et qui, du coup, me fait culpabiliser
voilà,
en me disant
ça,
je vais être raisonnable. Et du coup, je me mets à me goinfrer à cause de Mélanie Gomez.
Pourquoi on se copie tous là, dans ce lâchage gargantuesque?
Parce que c'est un grand moment de partage. Oui. Voilà. C'est un grand moment de partage et c'est un rituel. Alors, quand vous associez le rituel avec le moment de partage où personne ne veut être seul, où tout le monde veut être ensemble, avec sa famille, ses proches, à ce moment-là, effectivement, l'aliment représente l'unificateur, hein,
de la
le
famille,
pain unificateur
des gens autour de la table,
de la famille. Et c'est la raison pour laquelle les maîtresses de maison ou même les hommes qui préparent le repas vont mettre tout leur cœur à préparer les plats les plus.
Mais moi,
plus,
je vous avoue que s'il y en a un à ma table
agréable,
qui ne mange pas tout ce que j'ai cuisiné,
mais
je
voilà,
vais faire la gueule. Hein,
mais bien sûr, avec tout ce que le travail que vous avez.
Oui, mais c'est le plaisir de les voir tous manger
et le
aussi.
Le plaisir de les voir manger.
S'il y en a un qui ne mange pas, il va passer pour un ovni.
Alors, dans les grands moments de partage, en France, nous le faisons au travers de l'alimentation. Ce n'est pas vrai dans tous les pays du monde, loin de là. Mais chez nous, c'est très très fort comme symbole.
Alors, est-ce que vous avez quelques conseils? Parce que ce qu'on a tendance à faire, en tout cas moi ce que je fais, c'est qu'avant un repas comme ça exceptionnel, eh bien, je ne vais pas manger à midi. La veille, je fais attention en me disant « Oh là là, je sais que je ne vais pas me péter le bite, comme
pour
on dit. »
Pour pouvoir vous lâcher.
Mais voilà, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'au contraire, il faudrait peut-être se caler un petit peu avant?
C'est une mauvaise idée.
En général, en nutrition, vous êtes nul. Hein.
Oui,
non, non, il n'est pas nul du tout.
Plaisante.
Mais il est très
c'est
nul.
Une mauvaise idée. Alors, pourquoi c'est une mauvaise idée? Tout simplement parce que si vous vous privez avant, bien sûr, vous allez manger plus au cours de ce fameux repas. Et donc, là, il y a des risques.
C'est quand on est frustré qu'on se lâche, en fait, encore plus, c'est ça?
Oui, oui, dès qu'on est frustré. Non, c'est pas, simplement parce qu'on a faim.
c'est vrai.
C'est
vrai. Vu que Jimmy a dit qu'il sautait à peu près 18 repas avant le jour du réveillon.
On a très faim, alors on va manger beaucoup.
Oui, au bout de 3 jours sans se nourrir, Jimmy, forcément, vous avez faim.
Ça creuse un peu.
Jimmy, il n'en peut plus, là. Il tire la langue, il a besoin absolument de manger. Mais là, c'est un vrai
donc
problème.
Donc le midi avant le repas du soir, là, du réveillon, qui est souvent très très gros,
il faut
on mange
comme
un petit
d'habitude.
Peu quand même,
non,
normal.
Non, pas un petit peu. Ouais. Il faut faire un vrai repas. On aura une petite entrée, un plat principal, un yaourt,
vous
un fruit.
Compris.
Voilà. Ouais. Et le soir, il faut faire attention à quelque chose qui est l'apport en graisse. Alors, pourquoi il faut faire attention à l'apport en graisse? Tout simplement parce que si l'apport en graisse est très important...
Alors qu'on n'a pas l'habitude.
Ouais. Alors qu'on n'a pas l'habitude, on aura beaucoup de mal à digérer cette fameuse graisse, et là, on va passer une nuit absolument infernale.
C'est un peu toutes mes nuits du 24 que vous décrivez.
Voilà. Donc là, c'est très important de faire un choix. Hein,
faire un choix, Jimmy, ça va être dur.
Ça va être compliqué, mais on n'a pas le choix. Est-ce que ceux qui font un régime sur cette période de l'année doivent forcément le respecter ou est-ce qu'on peut s'accorder 2-3 jours là, dans la semaine?
Oui, parce que quand on est sur une bonne lancée d'amaigrissement, ouais, c'est pas évident quand
oui,
même.
Mais
hein,
alors, ouais. Justement, quand on est sur une bonne lancée d'amaigrissement, il faut absolument garder ces fêtes et manger comme tout le monde.
Surtout, on ne se prive pas.
Il ne faut pas se priver, mais simplement, il faut les prévenir que si la quantité qu'ils mangent devient très importante, ils seront effectivement malades.
Oui, donc on se lâche, comme tout le monde.
On mange de tout.
Pour les 2 repas ou 4 repas, en fonction de combien vous en avez.
On va pas se resservir 2 parts de foie gras, 2 parts de chapon,
ouais,
2 parts de fromage et 2 parts de gâteau à la crème. Mais on va manger de tout.
Et on se pèse pas le lendemain, surtout.
Alors, ça c'est très juste Mélanie. Surtout, ne vous pesez pas le lendemain, parce que le lendemain, c'est une catastrophe et vous êtes complètement démoralisé. Non, non. Pendant quelques jours, on ne se pèse pas.
On parle d'alimentation, mais il y a aussi l'hydratation. Et je crois qu'il faut faire attention sur la consommation d'alcool. On sait que c'est festif, mais néanmoins, plus que jamais, sur cette période-là, c'est pas terrible de trop faire l'excès.
Alors là, quelques conseils aussi. Quand on veut arroser bien son repas, il faut d'abord boire beaucoup d'eau. Ça, c'est la première des choses. En buvant de l'eau, on commence à hydrater son corps. Et il faut surtout manger avant de boire. Parce que... pour certaines personnes, commencer à boire sans manger, elles ne verront pas la soirée. Donc, c'est quand même dommage. Enfin, troisièmement, si on a bu plus que d'habitude, il faut énormément s'hydrater après. C'est-à-dire qu'au cours de la nuit, il faut s'hydrater
le lendemain. Bord de l'eau.
Autrement, on aura les conséquences d'une déshydratation due à l'alcool.
Et comment on gère le slow drinking? Il y a le slow fooding aussi maintenant, mais quelques conseils vous pouvez donner, peut-être pour justement, parce que bon, si beau papa nous resserre, comment on peut faire pour ralentir tout ça?
J'ai beaucoup étudié le slow drinking justement pour essayer de voir comment on peut changer les comportements. Alors le slow drinking, c'est pas un seul verre, c'est deux verres. Il faut qu'il y ait un verre d'eau à côté, il faut qu'il y ait un verre d'alcool. Et en fait, il faut tout le temps alterner. En alternant, vous arrivez à diminuer la quantité que vous buvez sans perdre du plaisir. Parce que le problème, il est là. C'est que s'il y a
pas de
plaisir,
de le déguster, ce vin, finalement.
Il faut le déguster, il faut le boire lentement et effectivement, et il faut entrecouper ces prises d'alcool par des prises d'eau.
Bon, le secret, en fait, c'est l'eau, hein, Jimmy, on a compris. Docteur Serol, on va faire une courte pause. On continue, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est le docteur Patrick Serog. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Et à présent, docteur Serog, on va passer au menu du réveillon et des autres repas festifs, à ce que l'on peut mettre dans son assiette finalement pour allier goût et ligne, hein, quoi qu'on a compris, hein, avec vous, on peut quand même se lâcher un petit peu. On va faire un petit focus peut-être d'abord sur les fruits de mer, grand classique des repas de fête. On peut y aller, alors là, tranquille et manger autant d'huîtres, de crevettes, de bulots, ça, ça n'a aucun impact sur la balance quasiment.
Alors les fruits de mer, ce sont des aliments qui sont très maigres, hein, pour la plupart. Il n'y a que les huîtres grasses, comme on dit, les grosses huîtres qui sont un petit peu plus grasses que les autres. Mais pour le reste, c'est vraiment extrêmement maigre. Alors oui, on peut en manger à volonté, mais on est très vite rassasié, hein, parce que souvent, à part les huîtres, mais les autres crustacés sont assez riches en protéines, et donc vous ressentez très rapidement le rassasiement.
Et puis c'est bon pour la santé en plus, non? Ça contient des
c'est très bon pour la santé, ça contient beaucoup de protéines, de l'iode, beaucoup de minéraux, donc c'est
là-dessus,
très bien.
On peut se lâcher.
Vous parliez du sel tout à l'heure, mais peut-être attention aussi, les fruits de mer, c'est assez salé, non?
Exactement.
Notamment les gens qui... Parce que ce qu'on en voit sur cette période de l'année, souvent aux urgences, c'est des gens qui vont faire des décompensations cardiaques.
Oui.
Pendant les périodes de fête,
absolument.
Il y a un excès de...
Ah oui, si on a de l'hypertension ou des choses comme ça,
peut-être prudence,
on fait gaffe quand même.
Donc c'est bon pour la ligne, mais attention si on a des petits antécédents.
C'est bon pour la ligne, mais si on a une insuffisance cardiaque, effectivement, il faut absolument limiter la quantité de crustacés que l'on va consommer. Et il n'y a pas d'autre moyen. On ne sait pas comment autrement limiter la quantité de sel.
Les huîtres et, bon, et compagnie, on va dire, ça va. Vous l'avez dit, sauf si on a des problèmes de santé particuliers. Mais attention peut-être à ce qu'on peut mettre avec. Le pain avec le beurre salé, la mayo avec les crevettes. Ça, par contre, on peut vite faire monter l'addition.
Il vaut mieux profiter de ces crustacés, mais pas forcément du pain, du beurre et de la mayonnaise qui sera à côté.
Moi, j'adore ça.
Il y a certains crustacés qui se mangent avec de la mayonnaise, mais on peut en manger raisonnablement. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de mayonnaise sur un crustacé.
Non, parfois, il y a plus de mayo que de crustacés.
Oui, exactement.
C'est vrai, avec le morceau de pain, qu'est-ce que c'est bon. Autre chose qui passe bien, je trouve, c'est le tarama avec des blinis. Est-ce que c'est bien ça?
Je crois que ça fait grossir le tarama.
Là, on a quitté les crustacés pratiquement, parce que c'est autre chose le tarama. Ce sont toujours des œufs de poisson, bien sûr.
Mais c'est un mélange de
crème et de sel.
C'est pour ça que vous aimez ça, Jimmy.
C'est bon.
Vous croyez que c'était que des œufs de poisson, hein, tranquille.
Oui, moi je mettais ça au même niveau que le saumon. Je me suis dit, c'est pas mal, ça doit être un truc un peu gras.
Ah non, c'est quand même beaucoup plus gras que le saumon. Beaucoup plus gras que le saumon, puisqu'on va rajouter beaucoup de crème dedans, alors que le saumon, il va guère dépasser 15 grammes de graisse au maximum pour 100
grammes. C'est mieux les blinis de saumon que tarama, si on veut essayer de limiter un peu la casse.
Les blinis de saumon, c'est mieux, oui. Mieux les blinis de saumon que les blinis de tarama.
Bon, vous avez compris, Jimmy. Alors souvent, à Noël et puis pendant les repas de fête, il y a de multiples étapes. Hein, l'apéro, l'entrée, le plat, voire même deux plats chez les Mohamed. Fromage, dessert, petit chocolat, digestif. Enfin, je m'arrête là. D'ailleurs, est-ce qu'on est obligé de suivre toutes les étapes? Moi, je vous ai dit, si quelqu'un ne mange pas tout ce que j'ai cuisiné à Noël, je vais me fâcher. Mais bon, admettons, on a le droit de refuser certaines étapes quand même. Si vraiment on n'en peut plus, on dit, je vais me réserver pour le fromage.
C'est vrai, il y a des étapes qu'on ne peut pas refuser. Par exemple, quand la maîtresse de maison a préparé un bon plat, vous ne pouvez pas le refuser de le manger.
Le plat, c'est difficile, ouais.
D'accord. C'est un casus belli. Mais par contre, on peut effectivement limiter, par exemple, le fromage. Ça, c'est très, très facile de pouvoir limiter.
Surtout si on est gourmand et qu'on a déjà vu la bûche qui a l'air pas mal.
Et puis le fromage arrive déjà après l'entrée, le plat principal, donc c'est bon. Donc on peut limiter le fromage. C'est à peu près le seul aliment que l'on peut limiter sans vexer tout le monde.
Du coup, le soir du réveillon, ça commence souvent par un petit apéritif. Comment est-ce qu'on fait pour limiter la casse? En général, moi je me rue sur les chips.
Le tarama, on a compris.
Le tarama,
les
oléagineux. Qu'est-ce qu'on met dans l'apéro?
Les cacahuètes et tout ça, voilà.
Alors, du sel encore.
Ça, c'est le moment le plus dur, parce qu'en fait, c'est un moment où on va absorber énormément de calories. Tous les oléagineux sont très gras, c'est 50% de graisse, donc vous pouvez vous imaginer que quand vous prenez une poignée de cacahuètes, vous avez déjà carrément deux cuillères à soupe d'huile, quoi, pratiquement.
Place, on met quoi ?
On met des petits légumes, ça c'est très bien. On peut mettre aussi un petit peu des petits morceaux de saumon, comme on l'a dit tout à l'heure.
Des petits fours un peu comme ça.
Ça dépend des petits fours à quoi, parce que les petits fours, tout
j'aime
dépend.
J'aime bien les croque-monsieur, la mini.
Les croque-monsieur, il y en a même maintenant qui font des mini-burgers, vous savez.
Ça, c'est bon.
Surtout, n'offrez pas des mini-burgers au début. Je m'excuse pour ceux qui les fabriquent, mais les mini-burgers, ça va vous couper l'appétit pour la suite. Il ne faut pas non plus que l'apéritif empêche de profiter du reste du repas. Donc, il faut faire très attention avec l'apéritif, et il vaut mieux se consacrer au repas que vous avez préparé.
Donc on ne refuse pas, mais on prend plutôt les bâtonnets de concombre que les
surtout qu'on va boire en plus. Donc on est obligé de manger quelque chose.
À Noël, il y a aussi évidemment la traditionnelle dinde ou le chapon. Ça, c'est pas si mal. La dinde, c'est une viande maigre. Le chapon, par contre, attention,
c'est
parce que
gras.
Moi, je ne savais pas que c'était si gras que par rapport à la dinde. Je ne pensais pas qu'il y avait une grosse différence, en tout cas.
Énorme. Le chapon, c'est extrêmement gras. Hein. Et donc, il vaut mieux la dinde. Mais il y a d'autres volailles aussi que l'on peut mettre. Hein. La pintade, qui est
très
bonne.
Ça, c'est pas très gras, non, c'est moins.
Non, la pintade, elle est maigre. Hein.
D'accord. Donc, pintade, c'est
on
bien.
On peut avoir une pintade. Il y a une autre volaille qui est très grasse, qui est l'oie.
Ah oui, d'accord.
Oui. Par contre, le canard...
C'est dommage, vous vouliez faire une oie cette année, Jimmy.
Ce sera pour une autre fois.
C'est très bon, l'oie. J'ai jamais goûté. Très bon goût, oui.
L'image est un peu perturbante, mais j'aime bien juste le jeu de l'oie. L'oie, la manger, je pense que j'aurais un peu plus de mal. Mais souvent, on aime bien manger la peau, justement. C'est croustillant, ça a été doré au four.
Dans le poulet, c'est pareil.
C'est la même chose.
Alors justement, il vaut mieux manger les volailles sans la peau ni les ailes.
Les ailes, pourquoi ?
Les ailes aussi.
Parce que c'est l'endroit... Parce que vous avez vu que les ailes, il n'y a pas beaucoup de chair.
Il n'y a pas grand monde qui aime les ailes.
Il y a une concentration de sucre. Ah si, vous savez, aujourd'hui, c'est devenu un plat qu'on retrouve en fast-food.
Moi, je trouve qu'il n'y a rien à manger dans les ailes, alors c'est pour ça que je les prends.
Oui, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à manger, mais il y a beaucoup de graisse.
D'accord. Alors, si on veut quand même proposer un joli plateau de fromage, on vous l'a dit, si on n'en peut plus, on le saute. Hein, c'est la seule étape qu'on peut sans vexer trop sauter. Est-ce qu'il y a des fromages à privilégier plutôt que d'autres ? Certains qui sont peut-être moins gras.
Alors, moi, je dirais que non, parce que l'ensemble des fromages sont gras. Bon, il y en a qui sont plus gras que d'autres. Si vous prenez un Vacherin, vous prenez du Roquefort, évidemment, ils sont un peu plus gras que 50% de matière grasse. Mais la différence ne sera pas énorme.
Mais en gros, on en prend un petit peu de chaque. Quoi. Quelle quantité, quelle portion ?
La quantité qu'on peut prendre, c'est environ 60 grammes de fromage.
Ça fait quoi, ça, 60 grammes ?
Un quart de camembert.
Ah,
c'est
ben
60
voilà.
grammes de fromage.
C'est clair, en tout.
Un quart par repas.
Pour le repas.
On remet la même chose le lendemain.
Vous finirez votre camembert le lendemain, Jimmy. Y a pas
mais si j'en mange pas dans les 2 à 3 jours qui précèdent, est-ce que j'ai le droit de faire un quart fois 2 à 3 pour compenser cette diète que je me suis imposée ?
C'est vrai que c'est une technique qu'on utilise très souvent.
Ah bon ?
Elle se moquait de moi, la Gomez.
Non. Pour les gens qui aiment tellement le fromage, on leur dit écoutez, vous ne prenez pas de fromage dans la semaine, sauf 3 fois par semaine, où là, vous prenez 60 ou 70 grammes de fromage avec un bon morceau de pain. Là, vous vous faites vraiment plaisir.
D'accord.
Ça vaut mieux qu'un petit bout tous les jours qui...
Ouais, qui est rikiki quand même. Hein. Voilà. Jimmy, ça ne le cale pas du tout, ça. Hein.
Non,
c'est clair. Donc, vous voyez, vous limitez un peu, mais vous en mangez plein le jour où vous en mangez. Le pain, justement, qui va accompagner ce bon fromage, 60 grammes, on l'a dit, un quart de camembert à peu près, pas plus par personne. Comment on choisit le pain qui sera le plus, on va dire, à la fois digeste, qui ne va pas trop nous bourrer et qui, en même temps... fait pas trop grossir ou moins, j'en sais rien.
Les pains sont digestes. Bon, après, vous avez différents types de pains qui vont contenir plus ou moins de fibres. Bon. Après, c'est les goûts de chacun. Ceux qui préfèrent des pains noirs ou bien une baguette tradition.
La tradition, c'est bien.
C'est un très bon pain parce que, en fait, il va se déliter assez lentement dans l'estomac et dans l'intestin. Donc c'est un très bon pain. Mais il y a des gens qui préfèrent des pains avec beaucoup de fibres. Dans ce cas-là, c'est comme ils le souhaitent.
Et les enfants, ils aiment bien souvent les pains de mie. C'est plus sucré, c'est moins bien. Mieux vaut une vraie baguette que du pain de mie.
Il n'a pas l'air d'aimer le pain de mie, le docteur Serrault.
Le pain de mie, c'est toujours beaucoup plus gras. Hein. Donc, ce sont des pains plus gras, comme les pains industriels d'ailleurs, dans lesquels on est obligé, ce n'est pas qu'on veut mettre du gras, c'est qu'on est obligé de mettre un peu de graisse pour pouvoir conserver le pain plus longtemps. Autrement, il ne peut pas se conserver. Il devient très sec, très rapidement.
Donc, vous conseillez quand même plutôt d'acheter le pain en boulangerie que des pains industriels, au moins pour Noël, en tout cas.
Oui, et puis surtout, il y a des très bons pains. On peut acheter 2-3 pains différents, ce qui donne des goûts différents et qu'on peut associer comme on veut aux différents aliments.
Alors, le dessert, il y a évidemment la bûche ou pas, d'ailleurs. Je ne sais pas, la bûche, ça fait beaucoup grossir. Est-ce qu'il y a des conseils choisir la bonne bûche qui soit nutritionnellement compatible avec, par exemple, les personnes qui essayent de perdre un peu de poids ?
Non. Ce jour-là, on prend le gâteau que l'on aime. Donc,
bûche au beurre, crème au beurre, tout ça, on y va.
Mais oui, absolument, ça ne changera rien du tout.
Je reviens sur l'alcool, juste une question, parce que c'est vrai que souvent on ne se rend pas compte. Est-ce que, je ne sais pas, un verre de vin, à quel point ça fait grossir d'ailleurs? Parce que là, vous disiez, bon, une part de bûche, ok, une part de bûche par rapport à un verre d'alcool, par exemple.
Mais ça n'a rien à voir. Ouais. Ce n'est pas du tout le même métabolisme. Et il ne faut pas croire que parce qu'on va prendre un aliment, on va grossir. Ça, c'est vraiment un fantasme que nous avons tous. Alors, si je prends ça, je vais grossir. Non, pas du tout. C'est un ensemble d'aliments, un ensemble d'habitudes qui vont faire que l'on va grossir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas grossir du jour au lendemain.
Ouais.
Donc, c'est vraiment, ce sont des habitudes répétées qui vont entraîner l'augmentation de la prise de poids.
Mais un verre de vin, c'est de la... combien de calories?
C'est de l'alcool. Mais on s'en fiche le nombre.
Il ne veut même pas parler de calories, hein, vous avez vu, Jimmy.
C'est pas le nombre de calories. Parce que vraiment, il y a des gens qui deviennent obsédés à compter les calories et pour autant, on n'arrive absolument pas à perdre du poids s'ils sont...
Mais l'alcool, on dit souvent que c'est des calories vides. Ça veut dire quoi, ça?
Non, ça, c'est un terme que...
Que vous n'aimez pas?
Que j'aime pas du tout. Parce que rien n'est vide. Je veux dire par là que l'alcool, c'est utilisé... on brûle l'alcool, d'accord? On le dépense en énergie en partie. Une autre partie, on va le stocker en augmentant parfois la quantité de graisse que l'on va fabriquer. Donc, c'est pas bon pour nous forcément, mais c'est pas vide complètement. Ouais. Il y a vraiment des éléments dedans. Voilà. Autrement, même l'eau n'est pas vide. L'eau contient aussi des minéraux.
Bon, une fois qu'on s'est fait plaisir, entrée, plat, dessert sur dessert,
le fromage
à volonté. Le lendemain, est-ce qu'il faut reprendre ses habitudes alimentaires classiques ou est-ce qu'il faut s'imposer?
Qu'il y a les restes le lendemain, on fait comment?
Eh bien, oui, il faut reprendre ses habitudes alimentaires. Alors, c'est vrai qu'il y a les restes, mais on va en manger peut-être en quantité un peu moindre. Et puis, souvent, on n'a pas tellement envie de continuer à manger la même chose.
On peut dégoûter le lendemain midi, j'avoue.
On n'a pas tellement envie. Donc, on reprend ses habitudes alimentaires. Bah, s'il reste de la dinde, on va manger un petit bout de dinde. On va prendre une salade avec, si on n'a pas très faim. Puis, on va prendre un fruit. Voilà, ça va être très bien.
Mais on ne fait pas la diète. On ne se dit pas, je vais essayer de compenser là, mon excès en disant, allez, aujourd'hui, je saute un repas.
Non, parce que quand
il faut sauter des repas avant, après, pour vraiment se péter le ventre. Je saute des repas pour en faire des énormes après.
Vous ne vouliez pas parler de calories, mais moi, ça va être 4 ou 5 000 calories par repas. Donc, il va falloir un moment le payer, je le sais. Ce sera sur la balance.
Mais non, le lendemain matin, vous allez faire un petit footing, Jimmy.
Pas possible.
Je vais rouler, à mon avis, le lendemain matin. Je ne vais pas courir.
Et là, vous nous avez donné plein de conseils pour le repas du réveillon ou même bon, pour les suivants. Ça dépend des familles qu'on a. Alors, ça sera des petits réveillons cette année, on le sait, pour des raisons sanitaires. Mais le problème, c'est souvent quand on a une grande famille, que si on veut en plus ne pas être très nombreux autour de la table et qu'il faut voir tout le monde malgré tout. On fait des repas, parfois il y en a 4 dans la semaine, justement, on va faire avec la belle famille. Comment on gère ce marathon gastronomique, on va dire?
On gère pas.
Alors... Moi j'adore le docteur Serrog, c'est le lâchage total, c'est super. C'est exactement l'émission qu'on avait envie de faire.
Parce que c'est ingérable, dans la mesure où si vous ne mangez pas à l'un des repas, en tout cas on va vous détester, donc c'est pas la peine. Vous allez encore gâcher une fête, hein, franchement, ça sert à rien. Donc moi je pense qu'il faut que vous fassiez une croix sur cette semaine, vous avez 4 repas, vous avez les 4 repas, vous mangez à votre faim, mais pas plus, vous n'êtes pas obligé non plus de doubler la portion, et puis on reverra tout au début janvier, on reprendra de bonnes habitudes.
Oh, qu'est-ce qu'on est content, vous sentez mieux, Jimmy, là. On est déculpabilisés complètement.
Et puis on viendra vous voir, parce que vous aura pris du poids, c'est ça votre
stratégie. Vous risquez d'avoir beaucoup de clients,
c'est
de
ça, patients. J'ai compris, en fait, de trouver la subtilité. Très bien.
Merci beaucoup, docteur Serrog, d'avoir été avec nous pour nous aider donc, à limiter les dégâts sur le plan nutritionnel, même si, bon, on a compris, pendant les fêtes, on se lâche, c'est très bien. On vous souhaite un bon réveillon de
Merci
Noël
à vous, aussi,
à vous
très hein, bon
on y est presque. Merci encore, docteur.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Alors il est temps à présent de passer au mot du quotidien. Avec ce constat cet après-midi, Jimmy, l'épidémie de coronavirus, on n'en peut plus, ça c'est clair. Elle n'a pas eu pourtant que de mauvaises conséquences. Alors Jimmy, notamment grâce à l'utilisation finalement plus large des gestes barrières, qu'on connaît tous par cœur maintenant, vous les médecins, vous prescrivez moins d'antibiotiques.
Effectivement, alors c'est vrai que c'est un dommage bénéfique, même si c'est triste de devoir dire ça, mais avec les gestes barrières, du coup, on a moins de rhinopharyngite, moins de syndrome viraux quelconque, de grippe, de bronchite, et du coup, on prescrit moins d'antibiotiques, puisqu'on sait que 9 antibiotiques sur 10 sont prescrits par les médecins de ville. Même si à l'hôpital, on prescrit des antibiotiques beaucoup plus agressifs, nous sommes responsables de ce qu'on appelle l'antibiorésistance, c'est-à-dire que les antibiotiques ne marchent plus. Et donc finalement, comme les gens ne consultent plus ou moins pour une simple rhino, ils ne disent plus que les glaires sont tombés sur les bronches, eh bien ils réclament aussi moins d'antibiotiques. Et donc, par conséquent, on en prescrit moins. Et donc, c'est bon pour l'écologie de notre tube digestif.
Très bien. Alors, néanmoins, il ne faut pas nier quand même un petit retour en arrière que les antibiotiques, heureusement qu'ils sont là. Et on leur doit beaucoup quand même.
Évidemment.
Hein.
Ouais. C'est vrai que souvent, on les critique.
Là, on diabolise avec ces antibiorésistances. Mais parfois, ils sont absolument nécessaires.
Ils sont nécessaires. On les diabolise parce qu'on les utilise souvent à mauvais escient. Et du coup, ça cause des effets secondaires. Mais néanmoins, les antibiotiques ont sauvé des dizaines, voire des centaines de millions de vies. Alors, ça a été créé en 1928 par Alexandre Fleming, mais il a fallu attendre les années 40 avant qu'il y ait une industrialisation des antibiotiques.
C'est pas si vieux finalement. Hein.
Ça paraît loin, mais à l'échelle de l'humanité, ce qu'il faut savoir, c'est que les antibiotiques sont là depuis plus des millions, voire des milliards d'années.
Pas les antibiotiques, c'est les
bactéries. Les bactéries, elles sont là depuis un milliard d'années. Donc à l'échelle de l'humanité, les antibiotiques ne sont là que depuis très peu de temps, même si, vous l'avez dit, ça a bouleversé nos vies.
Alors, revenons dans le contexte actuel. Jimmy, si c'est une bonne nouvelle pour les prescriptions d'antibiotiques qui ont donc diminué, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet donc de diminuer les fameuses résistances aux antibiotiques.
Exactement. Les bactéries sont là depuis un milliard d'années. Elles s'adaptent avec le temps. Les antibiotiques, on en a depuis 60, 80 ans, sauf qu'on n'en crée pas de nouveaux. Et à chaque fois qu'on utilise un antibiotique, si vous prenez de la pénicilline pour une angine, eh bien, vous allez tuer, par exemple, 99% des bactéries. Mais il va toujours en rester un petit pourcentage qui va résister, qui va s'adapter aux antibiotiques. Et plus on les utilise, plus ces bactéries vont développer des résistances et il arrivera à terme que les antibiotiques ne marchent plus. On le voit déjà à l'hôpital pour des infections sévères. On se retrouve dans ce qu'on appelle une impasse thérapeutique.
Il n'y a plus rien qui marche.
On ne sait plus quel traitement prescrire. Et il risque, sur le moyen terme, d'ici 2040, 2050, que l'antibiorésistance fasse plus de morts que des malades de cancer.
Ah oui, quand même.
Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait vraiment une logique liée à ces antibiotiques.
Petit aparté encore, Jimmy, je crois qu'en plus les antibiotiques, un petit mot, parce que c'est un sujet que vous adorez, c'est mauvais pour le microbiote. Hein.
Exactement, alors c'est vrai que ça perturbe la flore digestive et c'est une étude passionnante chez des enfants de moins de 2 ans. Et on s'est rendu compte que ceux qui prenaient des antibiotiques, alors évidemment, si, je fais une petite parenthèse, si votre médecin vous donne des antibiotiques,
c'est qu'il en a besoin, il faut les prendre.
Prenez-les, ne le dites pas, j'ai écouté le docteur Mohamed sur Europe 1, c'est une très mauvaise chose, ça va énerver le docteur et peut-être que je dirais n'importe quoi. Toujours est-il qu'on s'est rendu compte que chez les enfants de moins de 2 ans qui prenaient des antibiotiques, plus vous en prenez, plus ils en prennent tôt et plus ils sont à risque de développer des maladies comme de l'asthme, de l'allergie, du reflux, de l'eczéma ou même des troubles de l'hyperactivité. Et on se rend compte que même si la femme enceinte consomme des antibiotiques durant la grossesse, eh bien, ça a un impact sur le devenir du bébé. Et donc, d'une façon générale, il faut essayer d'utiliser ces antibiotiques au maximum chez les enfants, même si, encore une fois, si votre médecin vous
quand
dit de faire...
Juste quand c'est nécessaire.
Mais
c'est
du coup, ça perturbe le microbiote. Et souvent, les parents sont sensibles à cet argument en disant « Attendez, pour cette petite otite, votre enfant, il a 3 ans, c'est une petite otite rouge, congestive, pas purulente. On peut essayer 48 heures sans antibiotiques, ça peut passer. » Et donc, ce qu'il faut retenir d'une façon générale, c'est qu'une infection virale respiratoire évitée, eh bien, c'est un antibiotique qui est préservé. Et donc, de cette façon-là, on va lutter contre l'antibiorésistance.
Inutile contre la Covid aussi, les antibiotiques.
Non, surtout pas. C'est une infection virale. Dans certains cas, il y a une surinfection bactérienne. Ça reste extrêmement rare, mais ne vous mettez pas sous antibiotiques, même si je sais que parfois, c'est frustrant de rien avoir à proposer. Mais les antibiotiques ne sont pas la solution en Covid.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui ne raterait cette chronique pour rien au monde, évidemment, puisque c'est Catherine Blanc qui arrive à l'instant dans ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Tout de suite, je vous lis la question, Catherine, pour vous de Barbara. On va chez mes parents pour les fêtes. Je sais que ça veut dire ceinture niveau sexe pendant 2 semaines parce que bon... Moi, aucun problème, et mon mari, ça le bloque totalement. Que faire ? C'est pas la première fois que j'entends ça, Catherine. C'est assez répandu, ce type de blocage, quand on va chez les parents de l'un ou de l'autre.
Oui, parce que c'est intéressant, parce que alors là, on est dans un contexte de fête de fin d'année, de fin de Noël, donc les réunions familiales. Et assez naturellement, on retourne vers une idée d'enfant. On retourne chez nos parents, même si ce sont nos beaux-parents, on se retrouve avec des parents qui vont nous bichonner. Et même si on a des enfants d'ailleurs, on retourne en tant qu'enfant. C'est ce qui fait d'ailleurs toutes les difficultés souvent de ces réunions familiales. Eh bien, du coup, la sexualité, pour certains, ne s'invite plus, puisque ce n'est pas la position de l'adulte qui vient dans ce lieu-là, mais bien la position de l'enfant vis-à-vis des parents.
Donc, ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas elle qui est bloquée. Apparemment, ils vont chez ses parents à elle, et c'est lui qui est bloqué.
Oui, mais parce que pour lui, peut-être aussi, il y a le contexte géographique de où est-ce qu'ils dorment, la proximité des chambres,
Ah oui, par exemple, dans la chambre des beaux-parents, c'est compliqué.
Non, mais si la cloison est toute fine, si, et puis peut-être aussi parce que là, encore une fois, est-ce qu'il est bloqué par la présence des parents ou est-ce que sa propre femme n'a plus la même attitude parce qu'elle est chez ses parents et est-ce qu'elle est toujours désirable?
Donc ça va au-delà du bruit qu'on pourrait faire le soir. Mais parce que finalement, si on vient en plus avec nos enfants, ça veut dire qu'on a les grands-parents, les parents et
tout
les enfants.
Tout ça à proximité.
Donc,
ouais,
trois générations. Donc dans cette période-là, on a plus l'esprit de famille que l'esprit où on va mettre son couple en avant. C'est peut-être ça aussi.
C'est ça. On désexualise les choses et on est effectivement... Pour certains, c'est compliqué de trouver sa juste place. On est le parent ou on est l'enfant. On doit gérer et l'un et l'autre des relations. Ça donne déjà beaucoup de travail psychique. Donc évidemment, physiquement, à ce moment-là, on met un peu sur pause. Et je vois pas très bien où serait le problème, si ce n'est manifestement pour Barbara, qui 15 jours, c'est juste un truc énorme. Mmh. Peut-être faut-il à ce moment-là, puisque ce sont les parents de Barbara, qu'elle s'interroge pourquoi elle y va 15 jours.
Mais c'est étonnant quand même, puisque c'est pas ses parents à lui. Moi, je reste bloquée sur ma question, mais c'est ses parents à elle, et c'est lui qui est bloqué. Ils doivent en parler, elle doit lui dire ça me pose problème, ou bon, après tout, c'est 15 jours, et puis...
Parce que, en fait, c'est pas parce que... La gêne n'est pas nécessairement parce que c'est lié à ses parents, c'est lié à la relation que l'on entretient, même avec les beaux-parents, le devoir qui est le sien, la peur, justement, de...
De voir sa femme aussi en tant qu'enfant, finalement,
c'est ça. C'est ce que je disais. Ou alors, c'est parce qu'on est dans une situation de devoir protéger, câliner, ou alors il se sent aussi un enfant de ses beaux-parents, parce que vous avez des gens qui, grâce au mariage, trouvent des parents qu'ils n'avaient pas.
Ils sont très proches de leurs beaux-parents.
Et à ce titre, c'est comme c'est un devoir de fidélité, et comme si la sexualité était une infidélité ou une violence potentielle qui ne pouvait pas se faire dans ce cadre-là.
Et est-ce qu'au contraire, ces périodes de fêtes, normalement, sont propices à une augmentation de la libido? Est-ce qu'on a plus envie d'avoir des rapports sexuels pendant les fêtes de Noël ou de fin d'année qu'en temps normal, ou est-ce que finalement on peut s'en passer, puisque peut-être que ça répond à un besoin?
Je pense que c'est souvent... Alors, c'est d'ailleurs intéressant qu'elle, ça serait peut-être plus fort éventuellement. Est-ce que c'est autant que d'habitude ou est-ce que c'est plus fort quand elle est chez ses parents? Ce qui pose une drôle de question. C'est pourquoi c'est à ce moment-là que ma libido est au plus haut, au moment où justement je suis dans ce territoire parental. Là, il pourrait y avoir plein de questions. En tout cas, c'est à réfléchir de son côté. Et quant à savoir où est-ce qu'il y a plus de libido, ça, évidemment, je n'ai pas fait ces études-là. J'imagine quand même que la Saint-Sylvestre doit être un peu plus propice que ne l'est Noël.
Je crois qu'il y a beaucoup de bébés qui naissent 9 mois après ces dates-là, enfin en septembre, il me semble. C'est lié au fait
voilà,
de
mais
fin d'année.
Certainement à la fin d'année. Est-ce que c'est toujours de la sexualité de la meilleure qualité? Je ne sais pas.
Est-ce qu'elle a forcément besoin de son mari pour avoir des relations sexuelles? Enfin, peut pas aller voir quelqu'un d'autre,
ça,
aller
oui,
voir ailleurs.
Mange.
Non, mais oui, mais est-ce qu'elle pourrait pas, dans ces cas-là, de son côté à elle, seule,
se faire plaisir toute seule?
Ouais, ça, je pense qu'elle a certainement déjà trouvé ce chemin-là. C'est, il lui appartient.
Mais
bien
merci
sûr.
Pour le conseil, Jimmy.
Non, mais absolument 2 semaines, c'est le bout du monde.
Si c'est le bout du monde, à mon avis, elle a trouvé certainement le moyen de.
Parce qu'en temps normal, 2 semaines, on peut tenir sans rapport sexuel pendant
je
2 semaines.
Je pense,
mais absolument, plusieurs semaines encore et plusieurs mois aussi.
Voilà,
tout va bien.
Merci en tout cas, Jimmy, de vous inquiéter.
Mais je vous en prie, je suis un expert.
C'est toujours le service européen, c'est ça.
Oui, exactement. Le service après-vente, exactement. Un service de qualité.
Merci beaucoup, merci Catherine. Jimmy. Merci à tous les deux pour vos précieux conseils. Comme toujours, hein, parce que Jimmy aussi, maintenant, il donne des conseils sexo maintenant, qui intervient dans la chronique de Catherine. Un vrai duo de choc. Merci à tous les deux. On se retrouve demain. D'ici là, je vous laisse avec Historiquement Vôtre. C'est dès 16h. À demain.
Sans rendez-vous sur Europe 1.